Bien, chers amis, nous voici donc réunis autour du psaume 139. Alors, nous allons commencer par entreprendre la lecture du psaume dans la version que vous voulez. Je vous ai mis sur la feuille qui passe, à gauche, la version de Louis II. Et à droite, la traduction de la Bible de Jérusalem, qui est notamment réalisée par le révérend père Jacques Tourné, qui est quelqu'un, je dirais, d'affûté sur les langues sémitiques. Et c'est utile parce que, comme j'avais eu l'occasion de vous le dire, la langue des psaumes est une langue poétique et donc extrêmement difficile à traduire. Et il est précieux pour comprendre la signification de mots qui parfois n'apparaissent pas ailleurs dans le texte biblique. Il est précieux d'avoir des références en acadien, en babylonien, pour se dire qu'il est probable que telle racine soit une racine au sens verbal du terme, soit une racine commune, et donc retrouver le sens des mots qui sont des apax parfois. Donc apax, c'est le terme technique pour un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus donné. Alors je propose qu'on commence par une lecture des 24 versets. On peut peut-être se répartir un peu la lecture, quelqu'un commence et puis laisse la parole à un autre, on peut lire en deux ou trois fois comme vous voulez. Oui, volontiers.
Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
Si quelqu'un veut prendre la suite, effectivement.
Bon, je prends.
Oui.
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Alors, j'aimerais commencer par recueillir un peu vos réactions. C'est ce psaume est là pour nourrir votre piété personnelle. Quelle est votre réaction par rapport à ce psaume?
Ça qui vient
Très bien. D'autres Jonas. Réactions
Jonas. Ça va être un peu comme Jonas pourchassé par...
Comme Jonas pourchassé.
Ce qui me frappe un peu, c'est qu'il y a le mot haine dans les versets.
Il est question d'une haine haineuse. C'est traduit par haine parfaite, mais c'est une haine haineuse, en fait.
Et cependant, à la fin, il y a quand même de la bienveillance.
Oui. Oui, oui.
Les derniers versets sont...
Mais j'étais intéressé effectivement par la remarque de Françoise, c'est-à-dire quel est votre sentiment, hein? Est-ce que finalement c'est un psaume que vous prenez ou est-ce que c'est un psaume que vous délaissez parce que, comme elle le disait, ça peut être inquiétant finalement. Oui.
Je prends.
Il y a deux parties dans le psaume avec la fin où effectivement on fait corps avec Dieu quelque part contre les ennemis. Et toute la première partie construit cette proximité avec Dieu. J'ai commencé par la ressentir comme vous, comme « Oh là là, ça envahissant, Et après, j'ai vécu un peu autrement en pensant « Mais au fond, Dieu, dans toutes circonstances, est près de moi. » C'est-à-dire, il y a les deux aspects.
Et ça, vous avez trouvé ça plutôt rassurant.
Et ça, c'est bénéfique. Mm-hmm.
Mais oui, c'est un hymne à la foi.
Hymne à la foi, oui.
C'est une louange. Mais enfin, moi, je le vois aussi comme une louange à la création.
Oui.
Chanter, effectivement. Et même, est-ce qu'il n'y a pas un appel qui demande, toi qui m'as fait si merveilleux, si presque intelligent, si beau, si merveilleux à tout point de vue, est-ce que tu ne pourrais pas me donner un petit peu de ton omniscience pour que je décèle par moi-même? Alors, c'est peut-être là, il n'y a pas presque un chantage, on loue, enfin, un chantage, entre guillemets, hein. On loue Dieu de tout ce qu'il a été fait, mais je reste imparfait, je n'ai pas bien à savoir autant de choses et sonder les autres, et sonder le monde, comprendre comme toi tu comprends.
Ce qui serait à la fois l'idée de faire corps avec Dieu et ce qui serait cet appel à la foi qui est une adhésion au divin, et du coup d'être au bénéfice des caractéristiques divines.
Oui, je pensais à ce que j'ai entendu dire à propos de haine et à propos de que Dieu puisse lui faire mourir le méchant. Il me semble que c'est plus qu'un appel à la haine ou à la vengeance, un appel à être éclairé. Parce que dès le verset 23, « Sonde moi, ô Dieu, éprouve-moi, connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Autrement dit, bon, il est évident qu'il peut y avoir des moments où on éprouve envers quelqu'un, ou envers quelque chose, ou envers sentiments d'hostilité, mais je pense que là, le psalmiste demande à Dieu de l'éclairer, et dans ce grand élan de foi qui apparaît au début, lui demande de nous guider.
Et en même temps, quand on regarde la première partie, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une présence, mais il n'y a pas de jugement. On sent Dieu présent, très présent, mais il nous demande qu'il dirige, qu'il oriente. Donc c'est un constat d'omniprésence de Dieu, mais pas d'intervention. Ce moment, on parle d'intervention divine, c'est sur la conception, la création de l'être. Là, on parle de Dieu créateur, mais après, dans la réalisation des actes, on n'a pas d'approche de Dieu. À tel point, c'est qu'on demande à la fin, le psalmiste demande, mais est-ce que je fais bien ? C'est-à-dire que tu m'as créé, après tu es près de moi dans mon quotidien, mais est-ce que je fais bien ? Est-ce que même le fait de haïr quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, est-ce que c'est juste ? Donc c'est même une remise en question et demander quelque part, ce n'est pas une intervention de Dieu qui dit, puisque le psalmiste demande en fait. C'est-à-dire que quelqu'un ne le gouverne pas, c'est lui qui demande d'avalider.
Oui, à la limite, d'ailleurs, Dieu est convoqué dans le psaume, mais on est du point de vue du narrateur. Ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est la manière dont cela est perçu par le croyant. Donc il faut toujours distinguer la perception du réel. Et alors, c'est aussi intéressant quand je vais prendre vos deux réactions, parce que cela montre bien que avant que nous arrivions à lire le texte biblique, c'est d'abord le texte biblique qui nous lit. Je veux dire par là que les sensations que l'on peut avoir vis-à-vis du texte biblique sont très révélatrices de notre sentiment propre indépendamment du texte. Autrement dit, Alors, ce n'est pas exactement ce qu'a dit Françoise. Donc, j'extrapole. Mais on pourrait avoir une sorte de sentiment de culpabilité à cause de ce Dieu omniscient qui voit tout. On pourrait se sentir mal à l'aise parce qu'on préférait que certaines choses demeurent cachées, secrètes, personnelles. Et c'est intéressant parce que du coup, ce texte révèle que nous aurions des choses à cacher ou des choses dont nous ne sommes pas forcément très fiers. Et dans une certaine mesure, ça révèle justement cette finitude, qui est un terme peut-être plus compréhensible que le terme péché, mais en fait les deux sont reliés. Un texte qui révèle notre péché sans condamner, simplement par contraste. C'est-à-dire que notre confrontation au divin met en évidence notre condition réelle. Et même la bienveillance de Dieu, le soin que Dieu prend à nous accompagner, révèle notre besoin de ce soin. Vous savez, c'est toute la difficulté lorsque on prend soin de quelqu'un. Quelqu'un est malade et donc on va l'entourer, lui prodiguer tous les soins nécessaires en tant qu'ami ou en tant que proche. Plus on le soigne, plus on lui fait comprendre qu'il a besoin de ses soins. Donc plus on lui fait comprendre qu'il est dépendant. Donc plus on, j'allais dire, plus on l'humilie dans une certaine mesure. Et ce texte est humiliant en ce qu'il nous montre très dépendant ou sous le regard divin. Ce n'est pas nous qui observons, c'est nous qui sommes observés. C'est très désagréable d'être regardé. Alors, non mais, l'humiliation peut conduire à l'humilité ou à un sentiment moins noble. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous met à nu. Et en ce sens, c'est humiliant. C'est-à-dire que ça nous rend humbles,
oui,
ça nous dépouille.
Sonde-moi.
Alors au début, ce n'est pas sonde-moi, c'est tu me sondes. On va... De toute façon, on va reprendre le texte verset par verset. Mais il y a effectivement toute une progression dans ce psaume qui passe, je dirais, d'un soin subi à un soin accueilli. Et en fait, c'est le parcours de la foi. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui s'impose à nous et qu'on finit par accueillir. Mais au départ, on n'est pas obligé de dire que c'est un bénéfice, cette omniprésence ou cette omniscience de Dieu. On peut le ressentir comme une intrusion, et légitimement.
C'est le problème de la grâce.
C'est le problème de la grâce. Mais on pourrait se dire que la grâce authentique est une grâce, je dirais, respectueuse. Il y a cette belle formule du rabbin Marc-Alain Ouaknin qui parle de l'éloge de la caresse. La caresse, c'est à la fois ce qui stimule et ce qui respecte l'intégrité ou l'intimité de la personne. Et la grâce, c'est peut-être le fait de rejoindre l'autre sans, allez, utilisons peut-être un mot un peu fort, sans le violer. Donc, on va reprendre maintenant le texte verset par verset et puis voir cette progression et puis essayer de vous montrer pourquoi j'appelle ça un psaume de sagesse. Ouais, ça va pas de soi. Hein. D'ailleurs, c'est jamais intitulé psaume de sagesse. Alors, d'abord, il faut bien que je vous intrigue un peu. Et puis, deuxièmement, n'attendez pas que je vous réponde tout de suite. Vous allez trouver la réponse. Bien. Alors, il y a des textes là. Mais oui, vous en êtes déjà à la haine de la fin. Bien. Alors, je vous ai mis les deux traductions côte à côte pour que vous puissiez à la fois constater que les textes sont en général bien traduits, mais que dans le détail, il y a quelques petites nuances qui parfois disparaissent. Et dès le premier mot, c'est le cas. Le premier mot, chez Louis II, c'est « o », et dans la Bible de Jérusalem, c'est « du ». Ce sont des termes qui sont en fait strictement opposés. Chez Second, on va s'adresser au chef des chantres, au chef de chœur, et sous la plume de Raymond Jacques Tourné, on reçoit du maître de chapelle. J'en ai pas d'autres. Ah, il en reste encore. Donc, vous comprenez que ce genre de détail n'est pas sans signification. Alors, là, c'est facile parce qu'il suffit de se reporter au texte hébreu. C'est un lamed, donc ça désigne la destination. Donc, c'est Louis II qui a priori raison. Donc, c'est au chef des chantres. Mais J'en ai pas discuté avec Raymond Jacques Tourné, qui fut l'un de mes maîtres à l'école biblique de Jérusalem, mais ça c'est pour passer un peu la brosse à relu, hein, des fois ça fait bien. On n'est jamais aussi servi que soi-même. Bien, à mon avis, du maître de chant, c'est une contamination de la tradition populaire, je dirais. C'est un psaume. Donc si c'est un psaume, c'est normal que ce soit produit par le chef de chœur. C'est normal que ce soit produit par le cantor. Et en fait, ce que dit le texte, c'est que c'est un document qui va justement s'adresser au chef de chœur, à celui qui est susceptible de produire le cantique. Autrement dit, on lui offre les moyens d'accomplir sa vocation. Et c'est important parce que je crois que c'est l'esprit dans lequel tout ce texte est produit, et c'est pour ça que ça va être en fait un psaume de sagesse, c'est que cela nous dit comment la foi dont on a parlé est au fondement, pas simplement de notre être, mais aussi de nos réalisations. Et en fait, ce texte nous dit comment se réalise un processus de création, un processus de réalisation, comment se déroule la vie finalement. Donc, au chef des chantres, de David, et donc, vous voyez, c'est encore envisagé comme de la part de David, mais on a encore un lamed. En fait, c'est à David, à nouveau. Les deux ont de David, alors qu'en fait, c'est exactement la même construction que pour au chef des chantres. Psaume, éternel, tu me sondes et me connais. Donc, vous voyez, au début, il n'y a pas sonde-moi ou scrute-moi. Il y a un constat que ça m'arrive indépendamment de ma volonté. On subit. Alors, vous voyez, si on dit on est au bénéfice d'eux, c'est une façon de donner du sens positif. Mais, en tous les cas, il y a un passif. Enfin, la personne est passive. Alors, bien sûr que ça peut être rassurant, et c'est rassurant quand on est traversé par la foi qui accueille cette présence totale comme une présence positive. Mais quand vous êtes, je ne sais pas, dans une brasserie juste derrière la vitrine, là, hein, vous êtes en train de manger, et quelqu'un s'arrête et vous regarde en train de manger, n'allez pas être très à l'aise. Bon, et vous vous sentez sous l'œil de Moscou, en quelque sorte. Et il pourrait y avoir une sorte d'œil de Moscou. Et parfois, c'est l'œil, le fameux œil de Caïn, hein, qui nous poursuit jusque dans la tombe. Il y a un côté Victor-Marie Hugo dans ce texte. Bon. Et Caïn, il ne le vit pas très bien, cet œil, cette conscience qui le suit jusqu'au tréfonds. Donc, les deux termes qui sont utilisés sont intéressants en tous les cas. Pour un, c'est bin. Bin, c'est discerner, avoir l'intelligence. La bina, c'est l'intelligence. Donc, le discernement, à mon avis, c'est le terme qui ouvre ce psaume pour nous permettre d'arriver à la fin que vous avez un peu déjà déflorée. En disant, le but, c'est de distinguer entre le juste et l'injuste, entre le méchant et le vivable, en quelque sorte. Et donc, ce psaume dit que ces personnes sont au bénéfice de l'intelligence. Et parce qu'on est au bénéfice de l'intelligence, on va nous-mêmes devenir intelligents. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contamination dans ce texte. Et vous l'évoquiez en disant, faire corps avec Dieu. Faire corps avec Dieu, c'est faire corps avec ces capacités qui sont notamment celles de l'intelligence et de scruter. Ensuite, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Voyez comme les choses sont un peu étonnantes par rapport aux traductions françaises. Il y a une inversion des verbes. La bonne traduction, c'est celle de Louis II. C'est-à-dire que Louis II a bien le verbe « savoir », « toi », avec ensuite le fait de s'asseoir, puis de se lever, et que je me lève ou m'assois, tu le sais. Ça, c'est une formule poétique, mais qui n'est pas proche du texte. Et la traduction de Louis II correspond bien au mouvement. Je m'assieds, puis je me lève, puis je marche, et ensuite je me couche. Vous voyez, il y a une progression. Et tu pénètres toutes mes voies. Donc, on a effectivement le call, qui veut dire tout, et donc on a bien une intégralité qui va être prise en charge.
Une prise corvéable, quoi.
Oui, il n'y a aucune dimension de notre vie qui échapperait. Et alors, vous avez entendu le psaume. Si je l'ai mis après le psaume 104, c'est parce qu'il y a un contraste quand même assez saisissant. Le psaume 104 que l'on avait vu la fois dernière, qui évoquait la création, c'était une création pleine, pleine de tout. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et là, on a un psaume qui est vide de tout. C'est un psaume qui fonctionne en fait dans des dimensions, mais pas dans du remplissage. Je veux dire par là que là où le psaume 104 est un espace rempli et meublé, eh bien ici, il n'y a que du haut, du profond, du loin, du vide. Et ça permet de prendre conscience que la Bible n'a pas que des textes avec une vision positive du monde. C'est-à-dire que c'est un texte qui prend au sérieux le fait que nous pouvons avoir une vision du monde très négative, très pessimiste, très inquiète, très angoissée, où nous sommes toujours à distance de nous-mêmes. Et le fait que ce soit vide, c'est aussi une façon d'évoquer cet état un peu dépressif. Vous savez, on dit parfois qu'on peut être au milieu d'une foule et se sentir terriblement seul. Bon, le monde peut être peuplé, surpeuplé, et se sentir terriblement seul. Eh bien, c'est ce qu'essaie de restituer ce psaume, qui montre en fait une place vide, alors qu'on voit bien à la fin qu'il y a ne serait-ce que des méchants et des gens qu'on hait, et il y a des ennemis, donc c'est pas vide. Et pourtant, tout le début donne un sentiment de vide. Vide de toute chose bonne pour nous, en fait.
Si le psaume avait commencé par le verset 19...
Oui.
Les méchants, etc. Mmh. Là, ce que tu viens de dire, il n'y aurait pas de vide. Enfin, ça serait une réponse à cette menace, si tu veux. Et réponse à cette menace, c'est tout le psaume. Mais là, le fait qu'on commence par ces versets, ça peut faire penser, comme tu dis, au vide, mais est-ce que c'est vraiment ça pour toi? Je ne le ressens pas comme ça.
Et tu le ressens comment?
Comme une réponse au verset 19.
Ah oui, mais le psaume commence quand même par le verset 1.
C'est la réponse avant la question. Ah,
je l'ai lu, ce psaume.
Oui.
Et je me suis dit, il faudrait qu'il commence par le verset 19,
oui.
Qui montre la réalité du monde dans lequel ils sont.
Oui.
Et en réponse à ça, en réponse à cette angoisse, il y a tout le début, tout le psaume qui se déroule.
Alors moi, mon hypothèse, c'est que le psaume est dans le bon sens, et il est dans un sens assez commun aux autres psaumes. Et alors, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur mon hypothèse, mais mon hypothèse est la suivante. C'est un psaume qui, avec d'autres, notamment le psaume 137, deux psaumes avant, quand le peuple hébreu est sur est en exil à Babylone, il commence par une sorte de déploration. Et puis, c'est un psaume qui va finir sur le fait qu'on va balancer les enfants des ennemis sur les rochers, etc. Ce qui n'est pas moins intéressant que la haine parfaite. Hein. Eh bien, en fait, c'est les deux dynamiques semblables. On part d'une situation où on n'allait pas te couper. Voilà, on est dans une situation dépressive, plus envie de rien. Et pour arriver à la foi ou au sentiment de plénitude, on va en passer par la haine. C'est-à-dire qu'on va commencer par réveiller un sentiment de colère. Et en fait, pour ressusciter la personne, on va la mettre en situation de mobiliser son énergie négativement avant de convertir cette énergie positivement. Et ce psaume, à mon avis, parle de cela. Quelqu'un qui essaie de fuir sa vie, on va le mettre en situation de faire une sorte de retournement, une teshuva, une conversion, de faire face aux difficultés et du coup une sorte d'affrontement avant de pouvoir convertir cela en collaboration dans une perspective très, très idyllique. Et donc, le psaume, les psaumes ne finissent pas forcément sur un achèvement mielleux. Mais le fait que la personne soit en mesure d'être combative, c'est en fait une victoire. Et même si ce n'est pas dans des termes très évangéliques, parce que la haine, le désir de vengeance, le désir de mort de l'autre, rien d'évangélique, mais il y a un mieux-être que la situation de départ qui est en fait le sentiment de déréliction, par exemple, dont on parlera avec le psaume 22. « mon Dieu, où es-tu » Et le fait qu'il y ait un sentiment d'abandon, un sentiment d'errance et un sentiment d'abattement va être métamorphosé d'une façon assez radicale, mais qui n'est pas le dernier point de l'histoire de cette personne. Voilà pourquoi je comprends cette construction du psaume qui ne commence pas au verset 19. Pardon ?
Je ne sais pas, j'ai entendu parler au début, mais je ne vois pas l'abattement. Pourquoi
il s'enfuit. L'abattement, c'est parce que d'abord c'est vide, alors qu'en fait c'est plein. Et pourquoi fuir ? Sinon, parce qu'on refuse le présent, on refuse le réel. C'est pas forcément une fuite spatiale, en fait. On spatialise une fuite qui peut être une sorte de repli sur soi. Vous voyez, on a envie de se cacher, en fait. On a envie de faire l'autruche. Et quand on a envie de faire l'autruche, c'est quand même que ça va pas super bien. Quand on fait l'huître... Moi, je sais pas quelle métaphore on peut prendre encore, hein, mais... on peut faire le canard aussi. Ouais, on peut se cacher dans la baleine, enfin on peut aller de carré dans cils-là. Si la personne allait bien, si elle était effectivement animée par une foi tout à fait évangélique, en utilisant un anthropomorphisme, elle se jetterait dans les bras de Dieu. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une hypothèse. Maintenant, effectivement, d'autres éléments peuvent proposer une autre interprétation à laquelle je suis assez ouvert.
Enfin, la fuite dont il est question, c'est oui. Pas la fuite devant l'ennemi.
C'est la fuite devant Dieu.
La fuite devant Dieu.
Oui. Qui, mine de rien, joue un peu le phénomène de miroir. C'est comme Cain fuit sa conscience. Effectivement, fuir devant l'ennemi, ça peut être une très bonne décision. C'est ce que fait la femme dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce que font Marie, Joseph et Jésus à la naissance de Jésus. Il y a un moment où il faut fuir parce qu'on n'est pas en capacité de l'emporter dans un combat. C'est ce que disait Sun Tzu dans l'Art de la guerre. C'est pas la peine de commencer une guerre qu'on est sûr de perdre. Il vaut mieux trouver autre chose.
C'est la quête de Jonas.
Ouais. Oui, ils ne sont pas à la hauteur de la mission, par exemple.
Peut-être qu'on se sent oppressé d'être totalement soumis, sondé, percé à jour dans tous les domaines et dans tous les coins. Donc on se pose la question de savoir si on peut peut-être retrouver un tout petit peu d'indépendance et pourquoi pas dire de liberté. Mmh. Parce que là-dedans, on est quand même un tout petit peu ligoté. Même si c'est un véritable hymne à la foi, c'est une foi qui ne permet pas beaucoup d'échappatoire.
Ben, c'est une foi qui ne s'exprime pas pleinement au départ. C'est voilà, une foi
c'est
en devenir.
C'est une véritable foi, peut-être. C'est une réflexion sur, la condition de l'homme face à un Dieu immense qui le dépasse totalement et qui n'arrive pas à concevoir, qui ne peut pas concevoir d'ailleurs.
En tous les cas, c'est le psalmiste qui conçoit Dieu comme infiniment immense, peut-être parce qu'il se sent infiniment misérable. Mais quelqu'un qui est malade va vous dire « Non, viens pas me voir, ça va, je préfère pas que tu me vois dans cet état-là ». Vous voyez, ce registre de la fuite du regard de l'autre est extrêmement classique et compréhensible, parce qu'on n'a pas envie de se présenter dans tel ou tel état. propose qu'on continue encore un petit peu. Alors, vous voyez au verset 4, il y a le quart chez Segond qui n'apparaît pas dans la Bible de Jérusalem, alors qu'il est bien dans le texte hébreu. « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Ce qui est assez insupportable quand même. Quel est notre degré de liberté dans ces conditions? On peut se sentir oppressé.
Oui, mais la différence, ce n'est pas un dû par Dieu, c'est ce que nous allons dire.
On peut toujours ne pas dire la parole.
Mais non, parce que si on ne la dit pas, on sait qu'on va pas la dire. Enfin, Dieu sait qu'on ne va pas la dire dans cette perspective. Oui, c'est un peu comme s'il y a un scénario qui était écrit à l'avance et qu'on ne faisait que dérouler. C'est-à-dire qu'on est en train de subir totalement. On est maître de rien. C'est comme si on était peut-être même transparent, finalement. Vous voyez, avoir le sentiment d'être transparent, c'est quand même pas terrible. Hein. C'est quand ça va pas très fort.
Si on reprend par rapport à... Maintenant qu'on a eu le texte jusqu'au bout, si on le reprend par rapport à la suite où il parle de la haine des ennemis, c'est-à-dire qu'il y a quand même une liberté aussi.
Oui, mais la haine des ennemis, elle va venir après.
Oui, tout à fait. Mais on a introduit qu'il y a quand même une liberté, parce que Dieu, l'Éternel, sait ce que l'on va dire, mais c'est pas Dieu qui parle par ma bouche, là, en l'occurrence.
Je vous rends attentif au fait que c'est le psalmiste qui dit que Dieu sait à l'avance ce qu'il va dire. C'est pas, entre guillemets, Dieu qui dit « je sais à l'avance ce que toi tu vas dire voilà. ». C'est-à-dire que il faut être vigilant par rapport aux propos de ce texte. Ce n'est pas une théologie à prendre au pied de la lettre. C'est une perception. Oui.
Ce verset 4, c'est un peu ce que tu dis quand tu baptises un enfant. Car la parole n'est pas sur la langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. C'est ce qu'on dit aux petits enfants quand on baptise.
Non, c'est un peu plus loin quand on va parler de l'embryon. Comment ? C'est quand on va parler de l'embryon, le baptême plutôt.
Oui, mais enfin, ce qu'on dit, la parole qu'on prononce pour le baptême, le petit enfant, c'est Dieu qui... Tu ne connais pas Dieu, mais c'est Dieu qui te,
oui,
te connaît. Là, ça moi, c'est un peu l'équivalent, quoi.
Ça va être l'équivalent quand on va dire c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de la mer, et que finalement il y a quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, c'est-à-dire que tu m'as connu avant que je me connaisse. Oui, oui. Au baptême, on dit Dieu t'aime avant même que tu ne le saches. Ouais. Il y a quand même cette idée du baptême que nous sommes des êtres libres et qu'on n'est pas des automates programmés qui ne faisons que réciter le discours qu'on nous aurait mis dans la bouche. Voilà. Et ben voilà. Et il ne les condamne pas pour autant. Donc, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Donc vous voyez, il y a quand même très peu de degrés de liberté, effectivement. Mais, et bien voilà, c'est ambigu en fait. Pour certains, ça va être extrêmement rassurant. C'est l'image du cocon, on est dans le sein maternel. Et pour d'autres, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on a l'impression d'étouffer. Ça, il y en a pour lesquels avoir une couette sur les pieds, c'est déjà commencer à étouffer. Oui.
C'est
ton ah, mais on pouvait déjà le ressentir, ça.
Je
sais
pas
si comme ça. Mais bien sûr, ils sont structurés comme nous, à vrai dire, ces gens-là.
Tu m'entoures. C'est plutôt une parole rassurante.
Si ce n'est qu'il y a quand même beaucoup de psaumes où on dit qu'on est pris au piège de l'oiseleur et qu'on est enserré de toutes parts et qu'on est pris au piège, qu'on est prisonnier. Et quand on parle de la mort, on en parle comme de quelque chose qui nous ligote. Et quand on est ligoté, eh ben c'est qu'on est comme Isaac, prêt à être sacrifié. Et bien sûr qu'on peut aussi avoir l'idée que, eh ben on est comme emmailloté, donc en sécurité. On est au bon soin des parents. Et c'est ambigu, à vrai dire. Et pourquoi lever l'ambiguïté ?
Si haute que je ne puis l'atteindre.
Ben, pareil.
C'est Ésaïe je crois que c'est Isaïe, je suis toujours. Mes pensées dépassent tes pensées.
Exactement, on va voir ça.
Donc, on se reconnaît absolument incapable de comprendre ça, mais moi je trouve pas ça accablant.
Ah, mais si, c'est un peu gênant quand même.
On peut avoir deux lectures diamétralement opposées de ce texte. C'est tout l'intérêt de ce texte, à vrai dire. Et c'est vraiment pour cela que je répète que c'est vraiment la Bible qui nous lit plus que nous ne la lisons. C'est en fait un texte qui peut être une sorte de baromètre. C'est-à-dire, lisons ce texte et voyons comment nous réagissons par rapport à lui et nous serons en mesure de dire quel est notre état d'esprit le moment venu. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien... En fait, ça pourrait être tout simplement l'indicateur pour savoir qui je reçois tout à l'heure en entretien pastoral. Parce que je perçois que c'est pas le meilleur moment de sa journée ou de sa vie. Vous voyez, c'est un peu comme un indicateur en chimie. Ça nous dit quel est notre degré d'acidité, finalement. Enfin, quel est l'indice d'acidité. Et les textes bibliques sont parfois... destiné à cela, non pas un enseignement de paroles qu'il faudrait ensuite appliquer à la lettre, mais tout simplement prendre conscience de l'état dans lequel on est intérieurement.
Réveiller l'intelligence.
Et après, réveiller l'intelligence, parce que justement le verset 6 dont vous disiez que c'est très semblable à ce que l'on lit sous la plume d'Ésaïe, effectivement, c'est Ésaïe chapitre 40. Je vous le lis. Ésaïe chapitre 40, les versets 14 et 28. Ésaïe, il dit ceci. De qui donc a-t-il pris conseil qui puisse l'éclairer, lui enseigner la voie du jugement, lui enseigner la science et lui indiquer le chemin de l'intelligence? Et puis, un peu plus loin, au verset 28. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu, le Seigneur est le Dieu de toujours, il a créé les extrémités de la terre, il ne faiblit pas, il ne se fatigue pas, nul moyen de sonder son intelligence. Et puis, il y a aussi ce passage d'Ésaïe, mes voix sont au-dessus de tes voix, mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Et c'est effectivement ce genre de parole qui nous fait prendre conscience et de notre finitude, et de notre limite pour la compréhension. Mais il y a le négatif du négatif. Si je prends conscience, effectivement, de ma finitude et de ma bassesse, c'est au regard d'une science que je qualifie de merveilleuse, et du coup, il y a une science merveilleuse à laquelle je peux m'abreuver. Et les psaumes fonctionnent souvent par contraste ou en négatif. Quand le psalmiste se plaint, quand il gémit, eh bien en creux, il dit qu'il a conscience qu'il pourrait y avoir un autre ordre du monde, que les choses pourraient être dans un autre état. Si on se plaint, c'est qu'on se dit que ça pourrait être autrement. Un enfant qui n'a jamais connu que la violence, eh bien, il ne va pas se plaindre, en fait, de la violence. À la limite, il aura même du mal à supporter l'état de paix. C'est parce qu'on sait ce qu'est la paix ou qu'on intuitionne ce que pourrait être la paix qu'on n'en peut plus des situations d'hostilité, de guerre, de conflit, etc. Donc, le contraste qu'il y a entre ce Dieu et puis ce que lui est, lui laisse entrevoir qu'il pourrait être autrement, du coup. Et alors, il y a donc les autres passages qui continuent à montrer la fuite comme Jonas. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Autrement dit, je me fais rattraper dans tous les cas. Alors, reprenons un tout petit peu l'image des cieux et de la mer. C'est ce que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, déjà, au chapitre 30. L'idée que la parole de Dieu est là, toute proche de nous, qu'elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « mais qui nous l'ira chercher ?» Elle n'est pas aux cieux pour que tu nous dises « mais qui montera pour la chercher ?» Et si on met ce psaume 139 en tension avec ce qui est mis dans la bouche de Moïse dans le livre du Deutéronome, on se rend compte que c'est vraiment la question de la perception qui est en jeu. Parce que c'est l'idée que nous nous faisons de notre place dans le monde qui éloigne les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que les choses sont beaucoup plus éloignées qu'elles ne le sont en vérité. Notamment, pour reprendre un peu la métaphore des ténèbres, le bout du tunnel, le fameux bout du tunnel. Eh bien, parfois, il nous semble tellement éloigné qu'on n'en voit même pas la plus petite des lueurs. Eh bien, la foi qui ouvre les yeux, qui éclaire d'un nouveau jour, pour reprendre ces métaphores-là, peut nous faire découvrir que le bout du tunnel est beaucoup plus proche que ce que nous imaginons. Et si je dis psaume de sagesse, c'est parce que ce psaume va susciter une sagesse chez le psalmiste, chez le croyant, qui va lui permettre d'avoir un nouveau rapport au monde. Hein, la sagesse, c'est un rapport spécifique au monde. Et la sagesse, dans les psaumes, dans la Bible, c'est la question de la connaissance, en fait. La dahat. Yada, c'est le verbe savoir, et dahat, c'est la connaissance. C'est la connaissance et la crainte ou le respect de Dieu. Ce sont ces deux éléments que l'on retrouve précisément dans ce psaume. Alors, juste ne pas se tromper de science. La science, ça peut être deux choses. On peut avoir une approche de la science comme d'une substance, c'est-à-dire un contenu. La science, c'est de savoir les choses, de savoir combien il y a d'os dans un corps humain, de savoir quelles sont les formules pour les échanges thermiques, etc. Donc, on connaît les formules, on connaît les données, etc. Ça, c'est de la substance. Et puis, il y a une autre science qui serait plus un principe, c'est en fait la curiosité. C'est la science comme recherche, c'est la science comme conquête, comme exploration, c'est la science comme mouvement, c'est la science comme désir de compréhension. Et c'est cela qui va être en jeu dans la sagesse biblique. La sagesse, ce n'est pas tant de savoir, contrairement à ce que le psalmiste pense au départ. Il dit « Dieu sait tout ». Et il n'est pas dit que Dieu sache tout. Moi, je ne pense pas que Dieu sache tout. Mais, en revanche, s'intéresser à tout, alors là, oui, là, c'est la science dont il est question dans la Bible. Si je prends le livre des Proverbes, je vais vous donner trois citations pour vous faire entendre que la sagesse, ce n'est pas tant le fait de savoir que le fait d'être dans un processus de transmission ou de découverte. Le livre des Proverbes est un recueil où il est beaucoup question de sagesse. Proverbes, chapitre 8, verset 10. « Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé court à sa perte. » Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Vous voyez, on ne dit pas quels sont les préceptes qu'il reçoit, on dit qu'il est au bénéfice d'une parole autre que la sienne. C'est la question de l'altérité. La sagesse, c'est de faire place à l'altérité. Les Chinois ont développé la sagesse. François Julien, qui est un sinologue, peut-être un peu contesté, mais en tous les cas, qui a étudié la sagesse chinoise, avait intitulé un de ses livres « Le sage est sans idée ». Alors, ça ne veut pas dire que sa tête est vide, mais ça veut dire qu'il est sans idée au sens où il n'a pas une idée en particulier, ce qui lui permet de les avoir toutes. Et c'est la question de l'ouverture, de la disponibilité. C'est la question de l'accueil d'une autre parole que la mienne.
Sans idée préconçue.
Sans idée préconçue, sans préjugé. Le vrai scientifique. Il n'y a pas d'idéologie qu'on impose à l'observation. Proverbe, chapitre 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. C'est-à-dire que finalement, on vit dans sa propre certitude. Vous voyez, on s'auto-alimente. Alors que le sage est celui qui bénéficie de l'enseignement de ses aînés, de ses camarades, des plus jeunes aussi. Ah, et puis il y en a une qui est vraiment belle, qui peut être reformulée. Proverbe chapitre 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors, il y a une reformulation qui reprend un peu un dicton de la sagesse populaire. Mieux vaut se taire et passer pour un imbécile que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Et au fond, ce qu'il y a de commun dans tous ces récits relatifs à la sagesse, c'est que le sage, c'est celui qui n'est pas certain de savoir ce qu'il sait. Le sage, c'est celui qui n'est pas certain de savoir ce qu'il sait.
C'est celui qui doute en permanence.
Et le doute est conçu de façon très positive. On pourrait le dire comme pas de conviction délirante. On pourrait le dire comme pas de certitude définitive portée comme un absolu. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, c'est son serviteur. Voilà, c'est grâce au doute que les auteurs bibliques arrivent à abattre les idoles. C'est la question que Salomon pose au moment de la dédicace du temple de Jérusalem. Quoi, l'Éternel, qui est le Dieu des dieux, infiniment supérieur à tout, pourrait entrer dans cette petite maison construite de main d'homme? Il y a un doute. Et là, le doute permet de comprendre la dimension symbolique d'un tel lieu, qui effectivement ne va pas contenir une substance qui s'appellerait Dieu, mais qui va être, comme on l'a dans le livre de la Genèse avec Jacob, la porte des cieux. C'est-à-dire que c'est un lieu particulièrement bien adapté pour nous ouvrir à la transcendance. Donc, la sagesse, ici on est au tournant, hein. Avec Dieu, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, les ténèbres brillent comme la lumière. Vous voyez, il y a un changement qui intervient, c'est-à-dire qu'on change de plan. Pour que les ténèbres puissent être comme la lumière, c'est qu'on est en train de changer de registre de langage. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Sauf si on considère que c'est un texte qui permet une bascule entre l'ordre physique et l'ordre humain ou spirituel. C'est-à-dire que on passe de la nuit physique, au sens où la lumière solaire est cachée par la moitié de l'hémisphère terrestre, à une nuit qui est la nuit existentielle. C'est la nuit de Jean de la Croix. C'est la nuit où on ne voit rien. Et effectivement, le psalmiste, depuis le départ, ne voit rien. Il a comme le regard obstrué, comme s'il y avait un voile devant lui. À la limite, il marche à tâtons. Enfin, il est dans le brouillard. Enfin, prenez toutes les métaphores que vous voulez. Mais il n'a aucun regard lucide sur son environnement. Et la sagesse, ça va être d'accéder à cette lucidité. On reviendra un petit peu sur la sagesse ensuite. J'aimerais revenir sur une expression. Je vous laisse la parole pour que vous me disiez comment vous la comprenez. C'est le verset 9. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. » Si je prends les ailes de l'aurore, qu'est-ce que vous comprenez avec cette métaphore ?
Apollon.
C'est l'est. C'est
alors, prendre la direction de l'est.
C'est le chemin du soleil.
Oui, l'est, le lever du soleil, le chemin du soleil. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas une métaphore du suicide, en fait. Ouais. Parce que... Mais parce que on va à l'encontre du jour qui se lève. C'est-à-dire que les ailes de l'aurore, si je prends les ailes de l'aurore, c'est en fait quitter la Terre. Je ne sais pas, hein, c'est une question que je vous pose. C'est que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de crescendo dans la fuite de ce psalmiste, une fuite qui allait juste... que finalement, à l'aspect radical, on fuit la vie.
Jusqu'au 11 et 12, qui est la fuite de la nuit. Parce que ouais. Si je vais dans la mort comme Hamlet, en fait, là, on est comme Hamlet qui se pose la question de être ou ne pas être. C'est ce que je vis ou je ne vis pas. Mais j'ai quand même, si je vais jusque dans les ténèbres, de toute façon, je vais retrouver l'œil de Dieu. Donc, de toute façon, je n'ai pas de... Dans la vie, dans la mort, Dieu est là.
Parce que, vous voyez, si c'est les ailes de l'aurore comme le jour qui se lève, l'aurore, l'aube, c'est très à la limite pascal, c'est la résurrection, tout est arrangé. Mais
le morceau de phrase suivant,
oui. Parce que
la vie à l'extrémité de la mer, à l'époque, c'était le bâtard.
Oui, mais l'extrémité de la mer, c'est aussi tomber dans le vide.
La terre est prête à l'époque.
Et oui. Donc, vous voyez, je trouve qu'il y a une dimension suicidaire dans ce verset. Mais en fait, je m'interroge avec vous pour savoir. Mais si vous me dites que non,
ben,
je suis preneur aussi. Hein.
11 et 12, on pourrait. 11 et 12, combinaison
des ailes.
11 et 12.
Ouais.
Mm.
11 et 12, oui, parce qu'on parle de ténèbres.
C'est canaf.
C'est une formulation politique, ça.
Oui, c'est une formulation politique, mais une formulation politique renvoie à une réalité. Et je essayais de trouver avec vous quelle est cette réalité derrière cette expression politique. Alors, juste. Alors,
c'est une manière de border le monde connu des humains, de ce qu'on connaît, nous, humains.
Oui, mais ce qu'il y a au-delà de ce que nous connaissons, c'est donc au-delà du vivable, et c'est l'idée du shéol, c'est l'idée de l'inhumain, du sauvage. Hélène, vous avez une idée ?
Moi, je le sens comme ça, c'était une contradiction pour les deux traductions.
Mais pas sur ce verset 9. C'est toutes les deux les ailes de l'aurore.
Jusqu'au bout, à l'extrémité de la mer.
Ouais. Alors c'est après la mer.
Alors qu'en fait, il n'y a pas d'extrémité à la mer.
C'est dans le après de la mer, c'est Behar Herit, Yam, donc c'est une fois que la mer est finie en quelque sorte.
Ah, ouais. Alors à ce moment-là, si on suit votre interprétation, à partir du verset 11 et 12, donc c'est qu'on est tombé dans les ténèbres, on espère se camoufler ou disparaître.
Je me demandais si ce n'était pas les dernières extrémités de la mer et du reste.
C'est votre idée de... qui ne m'était pas venue.
Oui.
La traduction, c'est au-delà des mers.
Oui, c'est... À... Voilà.
Ah, ouais. Oui, mais donc c'est si même je vais jusqu'au bout
qu'on aille...
Et je vais jusqu'au-delà du connu, je vais à la mort.
C'est ça.
Puisqu'à la pensée, on tourne dans la pensée, c'était plat à l'époque, dans leur pensée, la terre était plate.
Ah oui. Et en tous les cas, fini, oui.
C'était fini, et après, on
tombe dans le vide, comme on dit.
Oui.
C'est ça, oui. C'est une idée qui n'était pas venue.
Oui. Bon, vous voyez, de temps en temps, on arrive quand même à une indécision. On arrive à n'être pas d'accord ou à ne pas savoir. Bon, donc on va maintenir les choses en suspens. Mais oui, il est normal comme nous le sommes, c'est-à-dire que des fois, c'est épouvantable ce qui nous arrive. Et on serait prêt à tout pour... C'est Albert Camus hein, qui commence le mythe de Sisyphe en disant que la chose la plus communément partagée, c'est la question du suicide.
Ah bon ?
Non mais... Voilà. Non mais il y en a qui naissent... qui sont plongés immédiatement dans le chaudron de la foi, et donc pour eux, il n'y a pas de problème. Mais, mais le tragique de l'humanité est quelque chose qui peut s'exprimer à travers ces métaphores et à travers ces questionnements. Mais est-ce que le fait qu'on dise qu'on va au-delà de ses limites géographiques, c'est pas une façon de dire que du coup on va on passe de vie à trépas, quoi, tout simplement? Non. D'accord. C'est juste géographique. Ça peut être juste géographique après tout, hein. Il me semble, mais c'est bien d'en parler ensemble. Mais c'est comme si la mort n'était pas un échappatoire, en fait. Bon, bon, on ne va pas non plus trop s'éterniser sur la question de la mort, d'autant que le verset ensuite continue de façon intéressante. Mais là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Donc ça veut dire qu'on n'échappe pas, de toute façon, hein, quelles que soient les conditions géographiques, existentielles ou autres. Et alors, que ça vous rassure, je le conçois tout à fait. Mais je vous rends attentif au fait que c'est ce genre d'expression qui a conduit à la définition de la foi selon le théologien Paul Tillich. Paul Tillich dit que la foi, c'est le fait d'être fondamentalement saisi par l'inconditionné. Donc, être saisi par Dieu. Ou, voyez, on pourrait le dire plus philosophiquement, être saisi par la question de Dieu. Mais être saisi, en tous les cas. Et être saisi intégralement.
Oui, mais ça ne vient pas que tout seul. Hein, ça.
Ah ben, on voit que il faut commencer par fuir son destin.
Je sais que pendant longtemps, je ne pouvais pas dire que ta volonté soit faite. Hein.
Et donc, ce moment est un moment de bascule, avec une petite incertitude à cause de la grammaire hébraïque, parce qu'en hébreu, pour ce qui est des verbes, il n'y a que, disons, deux temps, l'accompli et l'inaccompli. Donc l'inaccompli, c'est aussi bien le présent que le futur. Et donc, ici, on peut soit traduire comme second par « conduira et saisira », ou comme la Bible de Jérusalem, conduit et saisi. Donc soit comme un futur, soit comme un présent. Il me semble que le présent est plus judicieux parce qu'il ne fait pas référence à l'espérance et à la foi qui est en train de se construire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il prend conscience que Dieu le saisit et il n'est pas en train d'espérer que Dieu le saisira puisqu'il est en train de tout faire pour y échapper. Vous voyez, si on prenait le futur, ça veut dire... Ben voilà, je me place déjà dans la superbe du croyant qui dit que, de façon, quoi qu'il arrive, Dieu me rattrapera. Non, c'est qu'en fait, on constate que Dieu nous rattrape. C'est l'expérience du croyant qui se joue à ce moment-là. Et c'est une expérience qui devient du coup positive, parce que, pensant succomber à la mort, il découvre être en mesure d'en réchapper, et grâce à Dieu.
Essayer de quitter Dieu, et à ce moment-là, il vous rattrape. Mais pourquoi la mort? Moi, ça, je ne le sens pas du tout comme ça. Hein, le fait d'essayer de, puisque tu es là présent tout le temps, on essaie de s'échapper.
Oui, et, parce que la mort peut être le dernier refuge. Et c'est précisément la chute de Jonas, qui commence par fuir à Tarshish. Donc il s'en va, il descend, ensuite il descend dans un bateau, et puis ensuite il descend dans la cale du bateau, et puis ensuite il y a les éléments déchaînés, et il dit « bon ben, jetez-moi par-dessus bord, quoi ». Et là il descend dans les tréfonds, et puis après il descend dans le grand poisson, etc. Et ensuite, il y a une prière qui va faire une conversion de Jonas, et du coup, après, il va repartir avec de l'allant. Mais voulant fuir, il en vient aux extrémités, c'est-à-dire que peut-être que le dernier lieu possible pour échapper à Dieu, c'est la mort. De même que fuir ses responsabilités, la seule façon assez radicale, c'est peut-être justement de mettre fin à ses jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit que c'est la dernière solution qui nous reste. Parce qu'on a déjà tout essayé. On est allé partout où c'était possible. Et à chaque fois, on est rattrapé. On se dit peut-être que là, il y a encore dans le Sheol, le séjour des morts, une sorte de lieu odieux, c'est-à-dire sans Dieu. Une sorte de tabou. Ah mais ça, je ne vous impose pas de lecture. J'essaie de comprendre la dynamique du texte. Qui va explorer en fait tous les possibles.
Et je me couche aux enfers, c'est pas la mort, ça?
Ah, si, ça je pense. Le Sheol, je pense que c'est le séjour des morts, oui, oui.
Mais est-ce que vous accepteriez l'interprétation suivante? C'est qu'il va jusque dans la mort, etc. Donc là, il y a un basculement extraordinaire, moi je trouve, parce qu'il reconnaît que c'est toi qui as formé mes reins. C'est-à-dire qu'il veut même la mort pour échapper à Dieu. Là, il réalise qu'en réalité, sa personne lui est donnée par Dieu, puisque Dieu lui donne ses reins, le conçoit dans le ventre de sa mère. Et à ce moment-là, il va changer d'attitude, parce qu'au lieu d'être dépendant de Dieu, il va se recevoir de Dieu. Et ça va l'amener à être reconnaissant de cette merveille, etc. Moi, je trouve qu'en ce verset-là, il y a un retournement, parce qu'en allant jusqu'à souhaiter la mort pour échapper à Dieu, il reconnaît qu'il se reçoit de Dieu.
Alors, je ne suis pas là pour valider ou invalider, mais en fait, je ne trouve pas d'éléments à redire. C'est-à-dire que c'est effectivement très plausible. Didier Sicard était ici il y a une dizaine de jours, et il racontait l'histoire d'une personne assez âgée qui avait programmé son rendez-vous pour un suicide assisté. Et puis, elle appelle quand même son médecin généraliste pour le prévenir. Et le médecin est donc assez étonné, et puis il lui propose de lui rendre visite. Et la rencontre a lieu, et puis c'est une personne qui était assez âgée, qui avait des difficultés pour voir. Si jamais je ne raconte pas bien l'histoire, vous rectifierez, certains étaient là, mais l'esprit va y être. Donc il arrive avec une lampe électrique pour l'aider à voir, parce qu'elle avait des problèmes de vision, etc. Bon. Et puis elle est un peu surprise de ce cadeau, puis elle dit « Mais alors en fait, vous tenez à moi, enfin j'ai de la valeur pour vous ». Et alors, il lui explique qu'effectivement, il a de l'affection comme il a de l'affection pour l'ensemble du genre humain, etc. Et ça finit en disant, elle dit à son médecin, « Vous n'oublierez pas de revenir dans quelques mois pour mes vaccins. » Et donc, peut-être que la bascule, elle se fait dans ce moment extrême de la mort, du désir de la mort, et dans la découverte que même au moment fatal, on reste suffisamment désirable auprès de Dieu qui ne nous abandonne pas pour autant et qui, en fait, non seulement nous saisit, mais nous conduit.
J'ai à votre interprétation du verset 9 et suivant une petite objection chronologique.
Oui.
Il semblerait que dans la deuxième partie du verset 8, le psalmiste a déjà expérimenté la possibilité d'échapper par la mort.
Oui.
Donc le suicide ne lui apportera rien de plus.
En effet, si ce n'est que le Sheol est d'abord un lieu géographique.
Moi, j'ai au séjour des morts.
Hein, oui. Mais en hébreu, c'est le Sheol. Oui. Et c'est considéré comme le lieu sous la terre, par exemple. Donc c'est un peu... Alors peut-être l'idée qu'il y aurait un lieu géographique qui serait l'enfer où on pourrait se rendre et qu'on peut aller encore au-delà, c'est le lieu où il n'y a plus de terre, c'est-à-dire au-delà de la mer.
Oui.
C'est peut-être une sorte d'excès supplémentaire. Mm-hmm. François.
Ta idée de mon interprétation de suicide, je la comprends dans la mesure où, par exemple, c'est un homme qui se révolte de toujours buter sur Dieu partout.
Oui, c'est ça.
D'avoir cette liberté.
Oui.
Et la seule façon d'y échapper, c'est de se suicider.
Oui.
Bon. Mais dans une perspective de l'homme croyant,
oui.
Au contraire, c'est tout le contraire.
Oui.
On est heureux,
oui.
Même dans le séjour des morts, d'y trouver Dieu.
Oui.
Oui, moi je trouve.
Alors c'est pour ça que ce texte, il est d'un bout à l'autre, ambigu. Suivant
oui.
D'un côté.
Exactement. Mais je pense qu'il ne faut pas lever l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il est pour les uns et pour les autres. Mais moi, j'aurais tendance à avoir une sorte de petit soupçon sur notre foi débordante. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même dans l'idée que nous sommes tous de sacrés mécréants. Et que nous sommes tous très en deçà de l'attitude croyante, exemplaire, etc. Et tant mieux si on a quand même beaucoup de bons moments où on est dans une lecture tout à fait réjouie de ce texte, parce que buter sur Dieu, c'est extrêmement positif. Voilà. Mais je pense que les textes bibliques sont pas faits pour les croyants, en fait. Je crois qu'ils sont faits pour les mal-croyants, que nous sommes si souvent, et qu'ils sont destinés justement à ces personnes qui butent contre la vie, qui butent contre l'être, et qui en ont marre, et qui veulent y échapper. Et là, il y a peut-être une pédagogie pour cela. Mais les textes bibliques sont quand même aussi pour les apprentis croyants que nous sommes. Et donc, si ça nous permet d'intensifier notre joie, réjouissons-nous.
Je ne sais pas si c'est une question de joie ou une question rassurante.
Oui, ou de confiance rassurante. Oui, c'est ça. Oui, oui. Si ça intensifie notre sentiment de sérénité, très bien. Je veux dire, toutes les occasions sont bonnes pour augmenter la satisfaction. Je veux dire, de nos jours, en plus, si ça peut servir là aussi de doudou spirituel, je veux dire, il ne faut pas lésiner, quoi.
Mais c'est ambigu, quand même. Ça reste ambigu.
En fait, on n'accepte jamais l'ambivalence, l'ambiguïté. On voudrait voir clair, accepter du tout l'ambivalence et l'ambiguïté. C'est pas rassurant du tout. C'est très confortable.
Eh oui. Alors, oui, Evelyne.
James, moi, ce qui me gêne depuis le début de la séance, c'est ce rapport à Dieu, c'est-à-dire cette dualité entre Dieu et l'homme. Alors que pour moi, c'est pas ça la foi. J'imagine pas du tout Dieu comme ça.
Oui.
Pour moi, Dieu, il est à l'intérieur.
Oui.
Je suis très gênée.
Oui, mais notez que si Dieu est à l'intérieur, il est quand même très difficile de lui échapper.
Mais il est en moi. Il est en moi.
Et on s'emporte toujours dans notre fuite.
Il est avec moi.
Oui.
Et je peux que je n'ai pas ce rapport à Dieu à l'extérieur de moi. Comment vous expliquer? C'est très difficile. Enfin, peut-être que... Il y a d'autres personnes qui le conçoivent très bien autrement.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est un peu archaïque.
Je pense que nous avons tous une part archaïque qui peut du coup s'y retrouver là. Vous voyez, par exemple, si on prenait la démarche de foi cartésienne, on parlait du doute. Bon, mettons en œuvre le doute pour être sûr que notre foi nous met bien en relation avec le Dieu véritable, et pas avec des chimères, des idoles, etc. Donc, le doute, c'est peut-être, par exemple, essayer d'évacuer l'idée de Dieu. C'est peut-être essayer de vivre très bien sans que la question Dieu intervienne dans notre existence. Et donc, on va, en quelque sorte, essayer de fuir Dieu, considérant que ça nous a encombré beaucoup trop longtemps. Donc, il y a cette démarche d'échapper. Il y a, pendant des semaines et des mois, se dire « Non, allez, je rejette loin de moi cette idée de Dieu, cette idée de la foi, cette idée de la grâce, et je veux vivre de façon tout à fait autonome. » Et puis, peut-être qu'il y a, au bout de quelques mois, cette prise de conscience qu'après avoir déployé tous les efforts possibles et inimaginables pour échapper à la foi, eh bien, nous pouvons, comme Descartes, considérer que la foi est quelque chose sur laquelle nous pouvons bâtir le reste de notre vie. Parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont été évacuées, mais cette chose qui résiste devient alors une évidence au sens cartésien du terme.
Il y a Augustin qui dit quelque chose de très intéressant sur Dieu. Quand, bon, je n'ai pas la citation exacte en tête, mais enfin, en gros, il dit « Cherchez Dieu, cherchez-le sans cesse, car il est caché. Et quand vous l'aurez trouvé, cherchez-le encore, car il est immense. » Je pense que ça suffit à occuper une existence.
Oui. Ouais. Ouais.
Même en doutant d'ailleurs, même en nourrissant la réflexion par le doute, y a quand même de quoi faire.
Le doute n'est pas quelque chose à appliquer une fois pour toutes. Ça fait partie de notre cheminement spirituel. Donc, la connaissance, elle va justement passer la surface des choses à partir du verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, etc. » Donc, « je te loue », c'est plutôt « je te rends grâce ». Alors, c'est le verbe « yada » en hébreu. Et si vous allez en Israël, quand vous dites « merci », vous dites « toda rabba ». Toda, ça veut dire merci, et Rabba, beaucoup. Donc, c'est je te remercie, je te rends grâce, plutôt que je te loue. On se souvient que le verbe louer, c'est quand même plutôt halal. Alléluia, louer Dieu. Donc, c'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Et puis, au verset 16, on a quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire un embryon, tes yeux me voyaient. Bon, comment vous le comprenez, ça ? Tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Est-ce que Dieu nous fabrique ? Allez-y, lâchez-vous un peu, là. Oui, alors juste là, oui. Oui, mais est-ce que ça signifie que Dieu fabrique ce cœur-là ?
Oui.
D'accord.
Mmh. Mais ça n'est pas étranger.
Il n'est pas étranger à cela.
Voilà,
mais comment ça se fabrique, disons ? Quelles sont les modalités ? Allez, bossez un peu là maintenant, je vous attends.
Dans les
modalités de quoi ?
Les modalités de fabrication de la sensibilité, du cœur, des reins, etc. Selon Dieu.
Dans les cultures de l'époque. Dans les cultures de l'époque,
oui.
Qu'on soit dans les cultures où on pense en Égypte ou en Moyen-Orient, on était dans une pensée, dans les autres divinités autour, c'est d'un dieu qui prenait l'argile, qui façonnait l'homme, et ensuite, donc une petite tuette, le plus facile c'est Khnoum en Égypte, donc c'est le dieu potier qui prenait de la glaise, qui formait l'individu, qui le sculptait, le modelait, et Thoth, on trouve l'influence ici, qui écrivait le destin de l'homme, et ensuite qui le mettait dans le ventre de la mère. Donc on trouve littéralement cette description de la création d'un dieu créateur qui prend de la terre, hein, qui le modèle sur un moule à potier, les Égyptiens disaient vraiment sur le travail du potier, ensuite qui le mettait, donc il le fabriquait et il lui écrivait quelque chose, une sorte de destinée, c'était Thoth qui écrivait la destinée de l'homme. Un séjour, donc on a bien, dans la pensée de l'époque...
Dans le récit mythologique.
Dans les récits mythologiques, dans tout le...
Et si on démythologise, comment ça marche ?
Voilà.
Et dans la mythologie africaine, on retrouve ça.
Ouais.
Chez les Guinéens, le mythe de la fabrication de Dieu qui fait des essais avec des corps différents.
Ouais.
Il y en a qui sont trop cuits, il y en a qui sont pas assez cuits,
ouais.
Etc.
Ouais. D'où les couleurs différentes. Bon, je vous donne juste un petit élément. C'est dans la langue hébraïque, l'embryon, c'est le golem. Ça vous dit quelque chose, ça ? Le golem. Donc, nous voilà, c'est quoi, c'est 17e, 18e siècle dans l'Europe de l'Est, hein, en Pologne. Voilà, ce qui deviendra plus tard le ghetto de Prague. Donc, on a un rabbin qui va avoir besoin d'un serviteur et grosso modo, il va créer un golem. Un golem, c'est un être qui, justement, fait comme Adam dans le deuxième récit de la création, à base de glèbe. Hein. Et il lui... Alors, il y a plein de versions, donc je vous en donne une, peut-être que j'ai inventé moi-même. Mais... Donc, il modèle un corps humain, Et il lui écrit dessus « vérité ». Vérité, c'est « hemet », « aleph »,« mem », « tav ». Et je pense qu'il lui souffle dans les narines, et hop, il prend vie, etc. Et donc, le golem, c'est effectivement une sorte d'embryon qui vient à la vie, et qui ensuite peut avoir les fonctions humaines classiques. Et alors, pour l'histoire du golem, à un moment donné, je ne sais plus, admettons que ce soit un chien qui le morde, et il lui arrache du coup un bout de la peau où était écrit « Emmet ». Il arrache en fait la première lettre, il arrache le « Aleph ». Il reste plus que « Mem Tav ». Et « Mem Tav », « Mot », ça veut dire la mort. Et de serviteur, il devient serviteur de la mort, en fait. Hein, il devient tueur. Voilà. Bon, ça, c'est pour l'histoire du golem de Prague, que vous retrouvez sûrement sous la plume de Martin Buber ou d'autres.
Oui, mais on retourne dans Frankenstein aussi.
Oui, c'est assez classique.
L'idée est fantastique.
Donc, ça, c'est la mythologie. Mais derrière la mythologie, il y a, je dirais, le réel. Et nous, comment ça a marché ? Je dirais, est-ce qu'on est vraiment une petite statuette en argile qui aurait été placée comme ça, discrètement, sans que le père s'en aperçoive, machin ? Bon. Les modalités, on peut les concevoir de bien des façons différentes. Est-ce que, pour reprendre votre expression sur créer la sensibilité, etc., est-ce que nous ne serions pas créés par Dieu en ce sens que nous serions le fruit d'un appel à la vie, d'un appel au désir de la vie. Et est-ce que ce texte n'est pas en train de dire que nous ne sommes pas auto-fondés, nous ne nous sommes pas construits tout seuls, nous sommes au bénéfice d'eux, au bénéfice de nos parents, dont la rencontre est plus que la rencontre d'un homme et d'une femme. Il y a aussi du désir, de l'envie, des projets, de l'altérité, de la transcendance, de l'épaisseur de vie, des héritages, etc. Et tout cela se conjugue pour former, non pas une seule vie, mais une autre vie, la nôtre. Et notre vie n'est pas simplement un assemblage moléculaire, il y a aussi l'éveil de la conscience, l'éveil de la sagesse qui est à entreprendre. Et peut-être que ce que dit ce texte, c'est avant ma conscience, avant que ma conscience soit, Dieu me voit. C'est-à-dire que je suis au bénéfice de personnes qui vont susciter cet éveil de la conscience. Autrement dit, je suis au bénéfice d'autrui qui éveille ma conscience. L'autre me connaît mieux que je me connais sur certains aspects.
Exactement ce qu'on fait avec ses enfants.
Oui.
On les aide à se construire.
Oui.
Mais
ils ne sont pas des enfants sauvages,
ouais.
Et nous sommes au départ leur conscience auxiliaire. Hein? Nous leur tenons lieu de conscience jusqu'à ce qu'ils prennent leur autonomie en quelque sorte. Nous et la communauté d'adultes qui éveille ces petits bouts. Sur la question de justement voir l'embryon, etc. Il y a un midrash sur le psaume 8, qui a quelques points communs, qui dit ceci. Lorsqu'Israël était au Sinaï pour faire alliance avec Dieu, le ventre des femmes enceintes se fit transparent comme du verre, de sorte que les embryons pouvaient voir Dieu et converser avec lui. Et peut-être qu'on peut le rapprocher aussi à ce que dit Jésus selon Matthieu au chapitre 18, verset 10. Les anges des petits vois sans cesse la face de mon père. Alors, moi, dans ma perspective, il n'y a pas d'ange avec des petites ailes qui ferait l'intermédiaire entre les petits enfants et Dieu. Mais c'est cette idée selon laquelle nous sommes au bénéfice de Dieu avant même que nous ayons atteint l'âge de raison, avant même que nous ayons fait nos preuves dans la vie, etc. Et c'est ça, la grâce du baptême. C'est que nous n'avons pas besoin de faire nos preuves, nous n'avons pas besoin d'atteindre tel ou tel niveau pour être déjà au bénéfice de la grâce. Et c'est vrai in utero, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'attendre les années 60 pour savoir que in utero, tout l'environnement avait déjà un impact sur l'enfant. Donc, on a ici cette sagesse qui s'élabore dans cette confrontation à autrui et dans le fait que nous devenons sujets dans cette histoire où tant de choses nous sont proposées. Finalement, le psalmiste passe d'une situation où l'espace est vide et il n'y a que de la distance à une situation où il est en mesure de recevoir une multitude, une foultitude de choses et d'en faire bon usage. Et le verset 13, c'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. C'est le verbe kana, en fait, c'est le verbe acquérir. C'est le verbe qui dit que nous ne laissons pas l'abandon, en fait. Vous savez qu'il y a cette loi que l'on trouve dans le livre de l'Exode, qui est vraie et pour le petit d'homme et pour le petit de l'âne, le premier-né doit être racheté. Tous les premiers-nés animaux, on les tue, enfin on les sacrifie, parce que c'est une façon de dire qu'ils appartiennent à Dieu, sauf le petit de l'âne et le petit de l'homme qui sont rachetés. Et ici on a cette idée-là. C'est une façon de dire que nous ne sommes pas que la résultante de cellules. Et nous ne sommes même pas que la résultante de deux histoires qui se rejoignent. Nous sommes plus qu'un patrimoine génétique, un patrimoine familial. Et en tout cas, on n'est pas chrétien génétiquement. Même si certains sont tombés dans la bassine jeune. Oui. Alors, continuons. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors, bon, là, on a les figures classiques de l'indénombrable, de la multitude, de l'excès. Et on a la fin du verset 18, qui est peut-être une préfiguration, mine de rien, de ce qu'est la résurrection sur le plan existentiel. Puisque ressusciter, egeiren, en grec, c'est éveiller, en fait, ou réveiller. Et donc, on pourrait aussi bien traduire par « je m'éveille, je suis encore avec toi » ou par « je ressuscite et je me retrouve avec toi ».
On aurait pu dire « je m'éveille et tu es avec moi ».
Oui.
Là, c'est « je suis avec toi ».
Oui. C'est-à-dire qu'on dit « oui ». On dit « oui » à ce qui nous arrive. Hein, jusqu'à présent... Moi, je pense que jusqu'à présent, Dieu était compris comme une menace. C'est-à-dire, parler de Dieu, c'est en quelque sorte avoir le regard fixé et puis être obsédé. Bon. Et puis là, on parle en « je suis encore avec toi », eh bien, ça veut dire que je viens vers toi, en quelque sorte.
La confiance est là.
Oui. On est dans le registre de la foi, là, ce coup-ci. Voilà. Il y a, pour le coup, un soulagement. C'est-à-dire, tout ce à quoi j'ai un petit peu résisté dans vos propos gentiment religieux jusqu'à présent, mais qui n'étaient pas infondés, hein, là, ils deviennent légitimes dans la dynamique, dans l'économie du texte. Parce que tout le problème, c'est que vous ne partez pas de zéro quand vous lisez ce texte. Vous partez déjà avec vos élans de foi, avec votre propre épaisseur, etc. Mais il faut se dire que le texte est pour les grands débutants dans la foi aussi. Ceux qui ont eu jusqu'à présent un discours très négatif sur Dieu. Pensez à tous ces étudiants de l'Université populaire de Caen. Bon, qu'ils lisent le psaume 139.
Et...
une menace, c'est quelque chose que l'on fuit quand même. Et là, il y a quand même une fuite de Dieu. Par transposition, je dirais, Dieu est peut-être une menace. Mais Je dis à titre d'hypothèse. En tous les cas, par rapport à l'ambiguïté qu'on évoquait tout à l'heure, Dieu peut être compris comme une menace par certains. Et peut-être qu'une forme d'athéisme, c'est justement le rejet d'un Dieu qui n'est perçu que comme menace. Peut-être parce que justement, il y a une perception qui est altérée. Et l'idée de ce psaume, c'est de rectifier la perception, de rectifier notre image de Dieu, et de passer d'un Dieu menaçant. Si vous avez eu ou acheté le dernier numéro d'Évangile Liberté, vous avez vu cette photo avec la prison où il y a au milieu tous les logements pour les gardes, de façon à avoir une vue complète sur toutes les cellules. Bon, c'est la panavision, en quelque sorte. Hein. Dans ce cas-là, c'est la menace, c'est la terreur permanente. On est toujours sous l'œil de quelqu'un. Alors, effectivement, c'est fait pour nous rendre moral, sauf que ça peut nous rendre fous aussi. Bon. C'est un peu une aparté, mais quel est l'intérêt du secret de la confession? À mon avis, c'est d'éviter l'extrémisme, c'est d'éviter de rendre fous les criminels ou les délinquants. Je veux dire par là que si quelqu'un est en fuite parce qu'il a commis un délit ou un crime, et que tous les axes sont vraiment bouchés, fermés, barrages de police, etc., et qu'il n'y a aucune échappatoire, inévitablement, il va y avoir une surenchère dans la violence. Il va vouloir forcer le barrage. Je serai préfet de police, je laisserai quelques échappatoires pour qu'il puisse passer par là, et après on le canalise, enfin on trouve des solutions. Le secret de la confession, je dirais, c'est la même chose. S'il n'y a pas de soupape d'échappement, s'il n'y a pas un lieu où on peut se libérer totalement, eh bien, dans ce cas-là, on est un peu comme une cocotte qui accumule et qui explose. Et donc, ça peut être compris aussi sous cet angle-là. C'est-à-dire que si rien ne peut être mis à l'écart, eh bien, en fait, tout s'accumule. Quand on a l'idée d'un Dieu un peu menaçant et qui est peut-être un Dieu comptable, en fait. Et alors, là où on voit qu'il y a une évolution, en tout cas, là où il n'y a plus d'ambiguïté, c'est qu'on est passé au début du psaume à « Tu me sondes », à la fin du psaume, le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Donc là, quoi que vous vouliez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, il y a un changement. Grammaticalement, en tout cas, c'est incontestable, ça c'est objectif. Et ce changement, on peut le comprendre comme, au début, voilà ce qui arrive, et en tous les cas, je n'y prends pas ma part. À la fin, c'est mon souhait personnel. Donc il y a une adhésion, donc on est bien dans le mouvement de la foi. Mais pour passer de l'un à l'autre, moi, je retiens qu'il a fallu de la fuite, et puis on l'a à peine évoqué, mais il y a la question du dégoût, de la haine, de la colère, etc. Bon, je vous impose rien comme lecture, comme interprétation. Mais je vous partage quand même une petite expérience pastorale, toute petite. C'est que pour passer de l'athéisme à la foi, on en passe quand même assez souvent par la fuite et la révolte. Et que ça peut être un texte qui est utile aussi bien en tant que parent, ami, pasteur ou autre, pour repérer les étapes du cheminement spirituel d'une personne. Quelqu'un qui est dans la fuite, eh bien, il ne faut pas forcément contrarier la fuite. Il faut peut-être l'aider à accélérer la fuite pour qu'elle fasse le plus rapidement possible son chemin d'exploration de toutes les impasses et qu'ensuite, elle puisse faire volte-face et être au bénéfice de cette sagesse qui permet de distinguer la méchanceté de la justice, etc. Et de pouvoir ensuite adhérer à. Il me semble que si on veut vraiment accompagner quelqu'un dans un chemin de foi, eh bien, on ne le viole pas, mais on accompagne son mouvement. Et on l'accompagne en lui faisant comprendre qu'on est là pour lui inconditionnellement. C'est le cas. et on ne le contrarie pas. Dieu ne contrarie pas le cheminement. Enfin, il le contrarie parce qu'il le montre un autre visage que le visage attendu. C'est ça, l'inattendu. L'athée s'attend à ce que Dieu soit impitoyable, sadique, assoiffé de sang, etc. Et donc, il s'attend déjà à Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, on ne le déçoit pas. Par contre, il y a de l'inattendu, c'est qu'on lui offre un Dieu miséricordieux. Oui. Eh bien non, c'est la révolte. Je disais, c'est le moment de la révolte. C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce moment où il n'y a pas plus extrémiste que les néo-convertis. Hein? Les néo-convertis qui disent, des protestants historiques, qui sont quand même assez tiédasses. Mais ils sont sages, en fait. Bon, alors des fois, ils sont un peu trop endormis, il faut un peu les ressusciter, quoi. Mais cette bascule de l'athéisme à la foi, elle passe souvent par un extrémisme, une sorte de radicalité, et que l'on trouve dans cet excès. Et je disais, dans la dynamique de la foi, cette violence n'est pas inintéressante, elle n'est pas à rejeter. Parce que c'est l'étape qui succède à une sorte d'apathie. Et l'apathie est vraiment un problème. C'est contraire à la vie. Et c'est la fameuse histoire de l'âne qui n'a pas soif. L'âne qui n'a pas soif, il va mourir. Donc il faut lui donner le désir de boire. Alors la solution, hein, je vous l'ai souvent dite, c'est de faire venir dans le pré un âne qui lui a soif. Il va boire et du coup ça va donner à l'autre l'idée de boire, etc. C'est le mimétisme positif. Bon. Donc passer de l'apathie à cette violence... C'est intéressant parce qu'on peut faire quelque chose de la violence beaucoup plus facilement que de l'apathie. Les psychiatres, par exemple, ou les psychologues cliniciens, savent qu'il faut un petit quelque chose à partir duquel on peut reconstruire une personne. Vous voyez, par exemple, on parlait de viol. Ben, prenons la situation d'une personne qui a été violée. Paradoxalement, elle a un sentiment de culpabilité. Eh bien, ce sentiment de culpabilité, il ne faut surtout pas l'évacuer ou l'effacer. C'est à partir de ce sentiment-là qu'on va pouvoir reconstruire la personnalité de la personne. Parce que ce sentiment de culpabilité, c'est un « je ». « Je n'aurais pas dû être là, je n'aurais pas dû faire ceci, etc. » Mais au moins, il y a un « je ». Et le petit « je », « je », le petit bout de sujet, on l'attrape et on va pouvoir le restaurer. Oui.
Je voudrais qu'on regarde le verset 21, que je trouve
Oui.
L'Éternel n'arrache pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une haine, d'une parfaite haine. Mm-hmm. Et ils sont pour moi des ennemis. Mm-hmm. Je trouve ça épouvantable.
Ouais.
Parce que c'est ce que disent les extrémistes religieux.
Ben, c'est ce que je disais à l'instant, oui. Ouais.
Je sais pas, Daesh ne dit pas d'autre chose.
Mais nos protestants peuvent le dire aussi, hein. Ouais, c'est bien réparti. Oui, c'est épouvantable et en même temps, comme je comprends que ce soit inaudible ce que je vous dis, mais en même temps, ce sentiment inacceptable est un élément à partir duquel une conversion est possible vers quelque chose de plus vivable. Mais la haine... Vous voyez, on peut faire quelque chose de la haine. On ne peut pas faire quelque chose de l'absence de désir. Alors, évidemment, ça nécessite de mettre en scène énormément de moyens humains pour convertir la haine. Mais ce défi, c'est le nôtre. C'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément de la haine, mais ça peut être de la rivalité. Eh bien, cette rivalité, il faut en faire quelque chose. Les bons managers... dans les entreprises, sont ceux qui arrivent à utiliser les défauts des collaborateurs pour en faire des talents. C'est un peu utopique, mais ça a aussi de bons résultats. Enfin bon, on n'est pas des managers idéaux, donc c'est pour ça que des fois ça ne marche pas. Mais utiliser des énergies négatives pour des accomplissements positifs, ce n'est pas autre chose que ce que fait la Genèse, et ça s'accomplit avec Joseph. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Bon, on peut s'arrêter là-dessus, non ?